Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Nous voulons aborder, avec une perspective biblique, les questions qui nous touchent au quotidien.
C'est pourquoi nous poursuivons aujourd'hui notre série de discussions sur le thème de l'amitié. Cédric est de retour parmi nous pour nous en parler.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Bonjour et merci d'être de retour parmi nous. Durant nos trois dernières émissions, nous avons discuté sur le thème de l'amitié en nous basant sur le livre biblique des Proverbes.
C'est exact, mais aujourd'hui nous avons changé d'approche, car nous allons réfléchir sur l'amitié qui liait le futur roi d'Israël, David, à Jonathan, le fils du roi Saül. Lisons pour cela les versets 1 et 3 du chapitre 18 du premier livre de Samuel.
Quand David eut terminé de parler avec Saül, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau et le donna à David. Il lui offrit aussi son équipement et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon.
Cédric, rappelez-nous le contexte de cette amitié car elle est surprenante à bien des égards.
Vous avez raison Yann, Jonathan était le fils du roi Saül et en tant que tel, il aurait été normal qu'il soit l'héritier du trône d'Israël, qu'il devienne lui-même le prochain roi. Toutefois, le roi Saül avait déplu à l'Éternel et de ce fait, l'Éternel a choisi plutôt David comme successeur au trône.
Considérant ce qui s'est passé, il n'aurait pas été étonnant que Jonathan soit rancunier envers David, qu'il devienne jaloux et amer, et pourtant, nous sommes témoins du contraire. Jonathan devient l'ami dévoué de David. Comment cela est-il possible?
Jonathan et David étaient tous deux des guerriers expérimentés. Ils avaient accompli de nombreux exploits pour défendre leur nation, Israël. Ils partageaient ces expériences communes. Encore une fois, Jonathan aurait pu être jaloux de David, car son ami avait acquis en tant que guerrier une renommée considérable auprès du peuple. La Bible n'est pas explicite à ce sujet, mais je pense que ce qui unissait ces deux hommes était leur foi en l'Éternel. Jonathan a su surmonter sa réalité, son contexte, qui aurait accablé ou révolté bien des hommes. J'attribue cette force de caractère à sa foi et à son humilité devant l'Éternel. Jonathan aimait Dieu.
Pouvez-vous vous expliquer davantage?
Jonathan a su se soumettre à la volonté de Dieu. Il a su accepter de l'Éternel des décisions difficiles. Bien sûr, il reconnaissait que l'Éternel ne lui permettait pas de monter sur le trône d'Israël et que la responsabilité en revenait à son père à cause de sa mauvaise conduite. Mais Jonathan n'était pas du tout rancunier envers David. Il savait que son ami n'y était pour rien, qu'il n'avait pas agi pour qu'il en soit ainsi et que la décision en revenait à l'Éternel.
Il est vrai qu'il faut faire preuve d'une foi incroyable et d'une grande humilité pour accepter la volonté de Dieu, surtout lorsqu'elle ne semble pas œuvrer en notre faveur.
Jonathan a su comprendre combien il est important de demeurer par la foi, proche de Dieu et de rechercher sa faveur. Se révolter contre l'Éternel, sombrer dans l'amertume, chercher le pouvoir en usant de violence ou en ayant recours à la corruption, tout cela est vain. Le dévouement de Jonathan pour David, celui que l'Éternel a choisi, exprime son attachement à l'Éternel lui-même.
Cédric, David et Jonathan ont vécu dans un contexte assez particulier. Alors, quelles leçons pouvons-nous en tirer quant à nos propres amitiés?
Il faut reconnaître que l'amitié est un cadeau relativement fragile. Les événements de la vie peuvent créer des tensions et mettre nos amitiés en danger. Comment réagissons-nous si l'un de nos amis réussit là où nous avons rencontré l'échec? Comment le prenons-nous si l'un de nos amis est choisi pour un emploi, une position dans l'église ou s'il occupe tout à coup une responsabilité que nous aurions tant aimé occuper? Si nous laissons germer en nous la rancune ou l'envie, ce sentiment risquera de gâcher notre vie et d'empoisonner notre amitié.
Mais comment combattre de tels sentiments et comment éviter que ces incidents viennent à gâcher nos amitiés.
Jonathan est l'illustration même de celui dont la foi est soumise à Dieu. Et à son exemple, nous devons nourrir notre confiance en l'Éternel et avoir cette conviction qu'il connaît toutes choses mieux que nous. Même si nos amis semblent s'en sortir mieux que nous sur certains plans, cela ne remet nullement en cause l'amour de l'Éternel à notre égard. De plus, lorsque notre joie et notre bien-être dépendent essentiellement de la qualité de notre relation avec l'Éternel, et non pas de notre réussite dans le monde, il devient alors plus facile d'accepter la volonté de Dieu et de demeurer un ami bon, fidèle et constant envers les autres.
Merci Cédric.
Lors de nos trois dernières émissions, nous avons réfléchi sur l'illustration de l'arbre trouvée dans le psaume 1. Aujourd'hui, nous allons considérer un autre texte qui ressemble beaucoup à celui de ce psaume, mais qui apporte des différences intéressantes.
Lisons donc les versets 5 à 8 du chapitre 17 du livre écrit par le prophète Jérémie. Ensuite, Jaffar nous rejoindra afin d'expliquer le sens de cette illustration.
Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert, et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit.
Jaffar, bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
À travers ces versets, le prophète Jérémie compare le serviteur de Dieu à un arbre planté près d'un ruisseau. Cet arbre demeure verdoyant et il porte du fruit, même lors des périodes de sécheresse. C'est exactement la même pensée du psaume 1. L'Éternel désire que celui qui l'aime demeure ferme devant l'épreuve et qu'il produise le fruit d'une vie juste.
C'est exact, Yann. Mais il existe une différence importante entre ce qu'affirme le prophète Jérémie et David dans le psaume 1.
Pouvez-vous nous la montrer?
Oui, une question se pose. Comment le chrétien peut-il devenir comme cet arbre résistant et fructueux? Le psaume 1 nous l'apprend. Il nous faut mettre notre joie dans la loi de l'Éternel et la méditer jour et nuit. Jérémie aussi répond. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel.
Je ne pense pas que ces deux réponses soient en contradiction l'une avec l'autre. Au contraire, elles se complètent.
Vous avez raison, Yann. Les deux vont de pair. Celui qui lit la Bible y découvrira un Dieu digne de confiance et il sera conduit à mettre sa foi en lui. De même, si notre confiance en l'Éternel est secouée par les événements de la vie, par la pression des tentations, par la douleur de l'épreuve, où donc se tourner pour renouveler et fortifier cette confiance? Vers Dieu, par la méditation de la Bible, afin d'épuiser des forces.
Parlez-nous davantage de ce que signifie mettre sa confiance en l'Éternel.
Les paroles de Jérémie nous montrent qu'il existe deux façons de mener sa vie, deux façons aussi de réagir devant les difficultés et les problèmes. Le prophète évoque ceux qui refusent de marcher avec le Seigneur et ceux qui placent leur confiance en lui. C'est comme si devant nous, deux sentiers nous sont présentés et il nous incombe de choisir lequel prendre. Je vais essayer d'expliquer cela différemment. Imaginez que vous avez un problème grave à résoudre. Comment faire ? Ceux qui vivent sans l'Éternel chercheront peut-être des solutions, quitte à avoir recours à des moyens peu louables. Certains auront par exemple recours à la violence ou à la malhonnêteté. D'autres chercheront la fuite ou un refuge à travers la drogue ou l'alcool. D'autres feront appel aux esprits maléfiques afin d'essayer d'influencer certaines personnes ou de changer les événements. Je pourrais continuer cette liste, mais vous avez, je l'espère, compris le principe. Parlons maintenant de ceux qui placent leur confiance en l'Éternel. Devant un problème ou une décision à prendre, que feront-ils? Ils prieront afin que l'Éternel les conduise à choisir la bonne solution, afin que leur Dieu pourvoie en tout à leurs besoins. Ils chercheront la volonté de Dieu, ils s'appuieront sur sa sagesse, ils liront la Bible afin d'épuiser ce que l'Éternel attend d'eux, ils refuseront de pratiquer ce à quoi le Seigneur leur demande de renoncer, même si leur chemin doit en devenir plus difficile et pénible. Ceux qui mettent leur foi en l'Éternel reconnaissent que leur avenir est entre les bonnes mains, car ils savent que l'Éternel est digne de confiance.
Le prophète Jérémie évoque aussi les conséquences du choix de ceux qui préfèrent marcher loin de Dieu, me semble-t-il.
Oui, on trouve dans ses paroles un avertissement pour ceux qui se détournent loin de l'Éternel. Selon Jérémie, ces personnes sont maudites.
C'est un mot fort, dur à entendre. Que signifie-t-il?
Du fait que ces personnes ne veulent pas vivre avec l'Éternel, elles se privent de sa présence, de sa bénédiction et de sa protection.
Par contre, ceux qui mettent leur foi en l'Éternel sont, selon Jérémie, bénis. Qu'est-ce que cela signifie?
Être béni, c'est jouir de la faveur et de la grâce de Dieu. C'est jouir de sa présence. C'est avoir le Seigneur pour appui. C'est trouver auprès de lui une aide et un refuge. La lumière qui éclaire notre chemin. Être béni, c'est aussi bénéficier d'une espérance éternelle. C'est avoir l'assurance de vivre éternellement avec Dieu. Être béni, c'est grandir comme ces arbres plantés auprès des ruisseaux. C'est tenir ferme dans l'épreuve avec l'espoir d'un meilleur avenir. C'est porter le fruit d'une vie réussie. Or, la réussite est telle que l'Éternel la définit. Elle est le résultat d'une vie juste et intègre qui fait resplendir la gloire de Dieu.
Merci, Jafar. Nous vous remercions de nous avoir clairement rappelé que seuls deux chemins, deux façons de mener nos vies, se présentent à nous. Aussi, nous vous encourageons tous à faire le bon choix, celui qui consiste à mettre sa foi en l'Éternel.
La prochaine fois, nous considérerons un autre texte biblique contenant une illustration spirituelle sur les arbres. En attendant, nous vous disons au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.